En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour à l'initiative de Jean-Robert Pitt de l'Académie des sciences morales et politiques, président tout à la fois de la Société de géographie et de l'Académie du vin de France, s'est tenue une journée de colloque sur le thème « Pourquoi aimer le vin ?». Des nombreux intervenants à ce colloque, au programme très riche, Canal Académie a choisi de vous faire partager la bonne humeur de trois personnalités. En premier, l'académicien Éric Orsenna, en deuxième, le journaliste Bernard Pivot et en troisième, le sénateur de l'Aude, Roland Courteau. Ces trois interventions clôturaient ce colloque ouvert par Jean-Robert Pitt qui a largement insisté, comme tous les autres intervenants d'ailleurs, sur la nécessité d'une éducation, d'un apprentissage à la dégustation du vin afin de mieux le goûter et de le déguster avec plaisir et donc avec modération. Entrez grâce à Canal Académie dans l'amphithéâtre de la Société de géographie, boulevard Saint-Germain à Paris, et dégustez les propos que nous avons choisis pour vous.
Merci, merci Monsieur le Président. Alors je vais parler vraiment en modestie parce que vous connaissez mieux les marchés du vin que moi. La seule petite légitimité, c'est que j'occupe pour un temps bref le fauteuil qu'a occupé avant moi Pasteur, qui avait un certain lien avec le vin, et que je me promène beaucoup. Et quand les enfants me demandent dans les classes où je vais, qu'est-ce que tu fais maintenant comme métier? Je leur dis, je suis promeneur professionnel. Oh, dame, comment on fait son métier? Et je dis, tu travailles d'abord. Et donc, je reviens du troisième tour du monde. J'en avais fait un sur le coton, un sur l'eau, et je viens d'en finir un sur le papier. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est un peu des sortes de convictions que je tire de l'évolution du monde et les conséquences que ça peut avoir sur le vin français. En introduction, j'étais très sensible, Madame Marie-Christine Tarby, de vous écouter, parce que j'ai vu la même chose un peu dans tous les domaines. Nous sommes pris en otage par le court terme, on le sait, donc Dieu sait si c'est compliqué d'être dans le long terme quand on fabrique du vin. Mais notre autre maladie en France est d'être pris en otage par la peur. On est en peur tout le temps. Et donc j'en parlerai un tout petit peu, mais quand je fais une enquête à travers le monde, en général je l'accompagne par un film. Et donc j'ai fait un film sur le Gulf Stream, j'ai fait un film sur le coton, et puis je voulais faire un film sur l'eau. Alors j'étais voir les gens à la télévision et je leur ai demandé, bon ben voilà, est-ce que ça va, je pourrais faire un film sur l'eau? Ils m'ont dit, ah, alors est-ce que tu vas dénoncer toutes les multinationales françaises? J'ai dit, bah il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y a des bons contrats, ah, c'est pas bon ça. Tu sais Coco, il faut que tu angles. Est-ce qu'il y a une crise mondiale de l'eau? Ah ben non, ça dépend de la situation géographique. Oh là là, c'est pas bon. Mais au moins, est-ce que notre eau potable, elle va mal? Elle dit, ben globalement non. Oh ben alors là, tu passes à 2h du matin et voilà, parce que c'est toi, 3 250,28 € pour 2 ans de travail. Alors je leur ai dit, vous êtes des Mickey, je me suis tiré. Donc, pourquoi? Parce que si j'avais joué sur la peur, immédiatement, j'aurais eu le financement. Donc, c'est une maladie française. Et dernière maladie française, après la prise en otage par le court terme et la prise en otage par la peur, c'est ce génie et qui vous frappe au visage quand vous vous promenez partout dans le monde, ce génie de se tirer dans le pied. Et dès qu'on a un atout, on l'écrase. Et je vous donnerai 2 exemples avant celui du vin. Il se trouve que j'ai présidé longtemps l'École nationale supérieure du paysage et on est en train de laisser crever nos pépinières. J'entrerai pas dans les détails parce que là, on peut rester pendant longtemps sur ces questions et les raisons. Regardez l'agriculture, le premier exportateur en Europe maintenant, c'est l'Allemagne. Et quand vous prenez souvent l'avion et que vous passez par-dessus l'Allemagne pour aller à l'est de chez nous, franchement, il n'y a pas de comparaison entre le terroir allemand et le terroir français. Eh bien, ils sont devant. Donc, notre incapacité à produire en France, vous savez que c'est enfin un grand thème de la présidentielle. Bien sûr, c'est bien la consommation. Enfin, il faut quand même produire chez nous, et notamment produire du vin. Et comme vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, ce que ça veut dire dans la balance commerciale. Alors, moi, je suis très européen, très pour l'euro, mais il y a un problème avec l'euro, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on a une balance commerciale. Et que si, évidemment, on achète plus à l'étranger qu'on vend à l'étranger, on est en état de dette. Et une des raisons pour lesquelles nous sommes en état de dette, c'est que nous laissons crever nos atouts. Et un des atouts français à l'intérieur de l'agriculture, c'est évidemment la viticulture. Donc il va falloir quand même se rendre compte quels sont nos atouts, et les atouts, il faut les défendre. Voilà ce que je voulais dire en intro. Alors je vais être rapide parce que je peux parler extrêmement longtemps. J'ai deux arrière-grands-parents cubains, et donc je peux parler aussi longtemps que Fidel Castro. Je voudrais vous donner quatre convictions. Première conviction, si vous croyez que ce que vous vivez en ce moment va durer, oubliez immédiatement cette idée. Je me souviens d'avoir rencontré, juste à la fin de sa vie, Julien Gracq, à qui je dois mon pseudonyme, géographe. Et il me disait, j'ai fait toutes mes études avec l'idée qu'au moins la Terre était stable, ou si elle bougeait, c'était sur des millions, millions d'années. Mais la référence était la stabilité. Il y avait bien une petite théorie, mais voilà, qui courait dans le lointain, mais elle n'était pas validée. Et puis, à peine ai-je eu fini, qu'on m'a dit, bah non, maintenant, c'est la tectonique des plaques, la dérive des continents. Et tout ce que j'avais dans la tête de fixité, j'ai été obligé de le changer en mouvant. Et rappelez-vous ce que disent les Japonais, tout ce qui a une forme est appelé à disparaître. Alors, que faut-il changer pour que l'essentiel demeure? Vous savez, c'est la grande question de l'aristocrate du Guépard, de Salina. Que faut-il changer pour que l'essentiel demeure? Que devons-nous changer? Si vous pensez que l'ensemble de notre territoire, et d'ailleurs nous avons des études là-dessus dans le cadre de le bureau de l'Académie du vin, si vous pensez que l'ensemble du territoire va rester tempéré chez nous, et que tous les terroirs auront assez d'eau pour cultiver à l'ancienne, oubliez immédiatement cette idée. Et que la chaleur remonte, le réchauffement, je ne vais pas entrer ici dans les polémiques de la cause du réchauffement, mais oubliez ça. Si vous pensez que les seules régions productrices de bon vin aujourd'hui ne seront pas rejointes par d'autres, oubliez immédiatement. Oubliez qu'on est les seuls pour toujours à savoir faire du vin, et du vin correct, voire bon, voire excellent. Oubliez immédiatement cette morgue. C'est pas vrai. Les autres sont aussi intelligents que nous et parfois travaillent un peu plus. Donc, si vous pensez que les seules zones de consommation extérieure sont peuplées de gens incompétents et qui vont pas aimer de plus en plus la qualité et donc être de plus en plus exigeants, si vous croyez ça, vous êtes mort. Première conviction. Donc, il y a intérêt à se bouger. Deuxièmement, concentration. Évidemment, pour se défendre dans une compétition qui va être de plus en plus sauvage, il faut s'unir. Nous avons en France 71 pôles de compétitivité. Et pourquoi? Parce que, pardonnez-moi monsieur le sénateur, mais souvent chaque élu veut son pôle. Alors il veut son pôle, mais il n'y a pas de financement. Et moins il y a de financement, et moins il y a d'avenir. On baptise le pôle de compétitivité à vocation mondiale. Ça ne mange pas de pain, ça ne coûte pas cher, et comme ça, on a un pôle mondial. Mais tout le monde se marre. Parce qu'évidemment, il y en a une trentaine, tous les autres, ça n'a pas de sens. Il faut quand même qu'on apprenne à être ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait que des grands groupes partout. Ça ne veut pas dire qu'il y ait que 3-4 grandes multinationales dans le vin en France. Ce n'est pas vrai. Mais se réunir, regardez, dans un milieu que je connais bien, qui est le milieu d'édition, il y a des grands groupes. Il y a des petits, mais en général, ils sont reliés à des grands groupes. Et il y a des ateliers qui se sont réunis dans des structures de toutes sortes, mais qui s'unissent. Je connais de mieux en mieux le monde agricole. Et le monde agricole, il a, comme vous savez, des difficultés énormes. Pour une raison principale, c'est que rares sont les productions dans laquelle on a réussi à bâtir des filiales. et que cette question-là est posée. C'est vrai pour les pépinières, c'est vrai dans votre domaine. Alors évidemment, c'est gênant parce qu'il y a le voisin, il est insupportable le voisin, et il ne faut pas besoin d'avoir lu complètement, en tout cas relu l'évangile, pour savoir que le prochain, il est plus chiant que celui qui est loin. Mais il n'y a pas le choix, et je pense franchement qu'on a besoin d'avoir des concentrations de force, quelles qu'en soient les modalités. Troisième conviction, la gouvernance. J'ai été passionné parce que vous nous avez dit dans la table ronde précédente, parce que en tant que conseiller d'État, j'ai été conseil juridique du gouvernement pendant 25 ans, et alors je vous voyais, vous, en train de fabriquer des lois, et souvent essayer de mettre de l'ordre au gouvernement qui n'avait l'impression d'exister que s'il fabriquait des lois. Des lois, sans arrêt, des lois, comme ça, et donc on regardait un peu ça. Donc, ce que vous dites sur les normes, évidemment, c'est clé. S'il pouvait y avoir, sauf les deux, trois mauvaises lois, qu'on pourrait changer, mais s'il pouvait y avoir un peu plus de stabilité, ça serait pas mal. Mais la gouvernance va au-delà des lois et des normes. Il y a des questions de concurrence. Je vais vous parler rapidement d'un domaine que je connais mieux, donc le domaine des pépinières, mais c'est vrai pour toute la production agricole. Quand vous avez des concurrences sur des marchés assez semblables et que le coût horaire d'un travailleur est de 13 à 15 chez nous, charges comprises, et de 6 à 8 ailleurs, à l'intérieur de la communauté européenne, arrêtez d'accabler les pays en voie de développement et dites-vous quelle est la gouvernance en Europe d'un espace supposé unique. Parce qu'il y a eu la suite de ce qu'on a raconté sur ce qui était vrai au départ de l'Allemagne de l'Est, mais combien de temps ça va durer? Donc cette question, elle est là aussi. S'il y a dans un certain nombre de domaines tellement de réussites éclatantes de l'Allemagne, c'est aussi parce qu'il y a de semblables distorsions de concurrence. Et en ce qui concerne la gouvernance, je vous dis aussi, avec toute l'amitié, le respect et l'admiration que j'ai pour vous, c'est que à l'intérieur de la France, comme la qualité, je vais revenir dans le dernier point, est absolument clé, il faut que tout le monde fasse le même effort. Et que quand c'est pas bien identifié, et quand dans une région les gens profitent du même nom et ont une qualité un peu inférieure, eh bien la qualité moyenne, elle est plombée. Et avant, on pouvait avoir une qualité plombée. Maintenant, celui qui a une qualité plombée, il est mort. Quatrièmement, la diversité. Dieu sait si j'aime la diversité. La diversité parce que, comme vous savez peut-être, j'ai écrit beaucoup de discours subalternes du président Mitterrand. Et alors, il y avait une phrase que j'aimais beaucoup parce que je pouvais la mettre dans tous ses discours. Alors, il avait une bonne mémoire, donc je faisais gaffe, mais enfin, j'ai réussi à la mettre dans quatre de ses discours. Et c'est une citation de Victor Ségalen, le poète breton à qui Saint-Jean de Perse doit beaucoup, et c'est pas un hasard si Saint-Jean de Perse a tout fait pour qu'on connaisse pas Ségalen, mais moi je dis que Ségalen c'est vachement bien. Et il disait, le divers décroît, là est le grand péril terrestre, contre lequel il faut lutter, mourir peut-être, le divers décroît. Évidemment le divers décroît. Mais je vais vous dire franchement que dans le monde aujourd'hui, dans ce monde où le divers décroît, garder le divers, ça veut dire avoir une marque. Et avoir une marque, ça veut dire avoir une histoire. Ça veut dire pas se proclamer divers. C'est pas suffisant de dire le terroir si on sait pas ce que c'est que le terroir. Proclamer des choses sans avoir l'histoire derrière. Alors vous allez dire, je bataille pour ma petite corporation de raconteurs d'histoire. Mais si vous n'avez pas une histoire, vous n'avez pas de marque. Et si vous n'avez pas de marque, vous êtes mal barré dans la compétition mondiale. Pour finir, je suis, comme je vous l'ai dit, au fauteuil de pasteur. Qui peut croire une seconde qu'avec un principe de précaution, on aurait tenté en juillet 1885 la première vaccination? Gestion du risque, oui. La précaution, c'est la moindre des choses, mais figurez-vous que la moindre des choses, c'est pas la vie. Deuxièmement, et je finirai là-dessus, petite remarque qu'on m'a faite un jour quand j'étais en Australie pour raconter mes histoires d'eau. Vous avez bien deviné que si j'ai fait un livre sur l'eau, c'est à titre de couverture. Il m'a dit, le vin, c'est de la géographie liquide. Je trouve que c'est un résumé magnifique. J'en profite pour saluer les enfants de Monsieur Dion, parce que pour moi aussi c'est un maître absolu. Je salue Jacques Puiset, à qui je dois le peu d'intelligence en la matière que j'ai. Et je finis en saluant le président, parce que pour une fois que nous avons un président dont nous savons qu'il sera encore président au mois de mai, et que j'adore être bien avec tous les présidents, quels qu'ils soient, merci de m'avoir invité.
Mais je suis au cours de ce symposium, le sujet le plus glamour, le plus léger, le plus excitant, le plus gai, à savoir le vin et l'amour. Je traiterai donc avec bonne humeur. Mais comme c'est un sujet qui, contrairement au précédent, ne se prête pas à la controverse, je serai très court. Donc, je vais commencer par une légende. La légende veut en effet que un légionnaire de César, dont les troupes remontaient la vallée de la Saône, s'est amouraché des yeux d'une très belle paysanne et a déserté. Et sur le lieu où a lieu cette magnifique histoire d'amour, il se situe dans ce qui allait devenir le nord du Beaujolais. On a appelé ce village le Saint-Amour. Le Saint-Amour qui est l'un des 10 crus du Beaujolais. Aucun spécialiste de la publicité du marketing, même M. Jacques Séguéla, n'aurait eu l'idée géniale d'associer le vin, la religion et l'amour. De sorte que le jour de la Saint-Valentin, il se boit une quantité phénoménale de ce Beaujolpif galant au nom magique. Alors malheureusement, aucune Suissesse n'a jamais entré dans ma vie, ce que je peux regretter, mais donc je ne sais pas ce qui se passe en Suisse avec un vin qu'on appelle le Valentin. On m'a dit qu'il s'en buvait beaucoup, que les amoureux de la Confédération helvétique en consommaient énormément, donc le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, et je vous le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas ce vin, que c'est un vin qui est cultivé près de Neuchâtel et dont les raisins sont de Chardonnay, Pinot Noir ou Chasselas. Mais enfin, le 14 février, si vous avez le cœur en ébullition et que vous avez au-dessus un portefeuille bien garni, il sera bien de commander au sommelier un Chambol Musigny qui porte un climat délicieux, très prometteur, les amoureuses. Mais enfin, c'est sans conteste le champagne qui accompagne le plus souvent, n'est-ce pas madame, les mots et les actes d'amour. Combien de bouteilles ouvertes, verticales, dans des seaux à glace, placé non loin du lit où, très chaudement, s'agitent des formes horizontales. La marquise de Pompadour avait raison d'affirmer que le champagne, je la cite, est le seul vin qui laisse une femme belle après boire. En effet, tout un chacun a pu observer qu'une consommation raisonnable de bulles donne à la femme une légèreté, un piquant, une aimable liberté, quelque chose de vif, quelque chose presque d'effronté dans le regard et dans les manières. J'imagine bien un futur colloque, mon cher président, sur le thème qui nous réunirait tous, sur de la beauté des femmes avant, pendant et après le champagne. Qu'en dites-vous ?
D'accord, c'est noté.
Beaucoup de femmes et d'hommes sont capables de retracer leur vie amoureuse à travers des chansons ou des films. Eh bien, il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui peuvent faire de même avec des bouteilles de vin, avec ces bouteilles qui ont illustré des jours mémorables de liaisons durables ou éphémères. Le vin est l'ambassadeur du fripon Eros. Personnellement, j'ai peu d'efforts à faire pour me rappeler un Beaujolais village, un Meursault charme, un Dom Pérignon, justement un Chambol Musigny clos les amoureuses, et un château Figeac. Oui, un château Figeac, vous voyez que je suis aussi, je m'aventure du côté de Bordeaux, et même un Riesling vendange tardive. Les vendanges tardives. Quelle symbolique sexuelle, n'est-ce pas ? Si le vin stimule la libido de l'homme et de la femme, leur donne de la hardiesse, leur chauffe la tête et le croupion, Gérard Depardieu, par parenthèse, déclarait à l'Express en janvier 2004 « Il n'y a plus que le vin qui me fait bander ». Qu'en est-il 8 ans après ? Il faudrait lui demander. Donc, il se peut aussi que le vin, bu d'abondance, conduise plus rapidement au sommeil qu'à l'amour. Oh, j'en ai lu, vous savez, j'ai lu beaucoup de livres, j'en ai lu des récits de nuit de noces où le jeune marié, qui n'avait même pas la force de se déshabiller, inaugurait le lit conjugal par d'ignobles ronflements. Sauf exception, l'homme ivre, même seulement un peu gris, n'est pas un très bon amant. Deux verres, ça va. Trois verres, bonne nuit les dégâts. Comme dans toutes nos activités, c'est vrai, il y a la plus grande injustice règne dans la capacité des hommes à jouir en même temps ou à la suite de l'alcool et du sexe. Avec l'âge, les deux diables se révèlent de plus en plus inconciliables, boire ou baiser. Mais il y a un temps pour tout. Le vin maintient en état de gourmandise, en état de sensualité. Le sexe donne faim et soif. Mon conseil, si vous me permettez, boire peu de vin avant l'amour, mais du bon, du très bon. Honorer Bacchus avec modération, puis après, honorer Vénus jusqu'à plus soif. Mais surtout, ne pas imiter Bacchus et Vénus, ou plutôt leurs homologues grecs, c'est-à-dire Dionysos et Aphrodite, qui après un repas où ils s'enivrèrent des meilleurs vins de l'île de Chios, s'unirent fougueusement pour donner la vie à un drôle de type, une sorte d'obsédé sexuel aux attributs gigantesques, dont vous connaissez le nom, qui s'appelle Priape. Mais enfin, ce sont des dieux, tous les excès leur sont permis. Et nous, alors que nous ne sommes que de pauvres humains qui devons raison garder jusque dans nos plaisirs et souffler dans les ballons de la police lorsque nous rentrons de nos fiestas. Le vin est aussi lié à la séduction. Il y a deux méthodes. La séduction par le grand vin ou la séduction par le petit vin espiègle et fruité. Dans le premier cas, l'homme manifeste avec vigueur une autorité qu'il espère conquérante par sa connaissance des châteaux, par sa familiarité avec les grands crus classés. Ceci, pense-t-il, devant la dame qui était en face de lui, lui ajoute du tanin, des arômes, du caractère, du corps. Il a pris de la bouteille, mais pas n'importe laquelle, du classé, du premier, du coûteux, du meilleur. La femme à séduire ne peut pas s'y tromper. Elle mettra dans son lit un grand AOC. Elle va coucher par procuration avec le poète Ozone, avec les Rothschild, avec le prince de Conti et même avec le pape. Car déguster de très grands vins, c'est boire de l'histoire et de la biographie. Toujours dans le dessein souvent inconscient d'afficher leur virilité par le truchement du vin, j'en reviens à la séduction, d'autres hommes adoptent donc la stratégie inverse, l'appellation modeste, où ils ont su dénicher une rareté sublime, connue et appréciée de quelques initiés. C'est un vin encore jeune, naturel, peu filtré, tout sur le fruit, et cependant tout en nuances et distinctions. Don Juan vient de faire son autoportrait. Si son invité n'éprouve pas l'envie d'y aller voir, de goûter et de succomber, c'est qu'elle est du grès dont on fait les pots à eau. On déconseillera pour une première fois les vins riches de soleil, très puissants, comme les Côtes-du-Rhône, les Languedoc et les Roussillons. Ces vins que notre ami Alain Saint-Drins, qui lui-même fait partie de l'Académie du vin de France, tous ces vins qu'Alain Saint-Drins appelle les vins couillus. Oui, il ne faut pas commencer par cela parce que ce serait d'emblée trop promettre. On se méfiera aussi, je parle là pour les hommes, de la femme à séduire encore mystérieuse. Elle peut se révéler experte en vin. Il y a de plus en plus de femmes qui s'y connaissent, et drôlement, et qui, grâce souvent à un palais supérieur à celui de l'homme, peuvent même en remontrer par leur connaissance de l'œnologie et leur aptitude à bien déguster. Oh, la tête du mâle conquérant lorsqu'il s'aperçoit que sa vis-à-vis à table en sait beaucoup plus que lui sur la carte des vins. Sa virilité peut en prendre un méchant coup. Le vin, enfin, est souvent lié, hélas, au temps de la rupture. Selon Frédéric Becbédé, l'amour dure 3 ans. Bon, il dure 3 ans, 6 mois, 10 ans, peu importe. Il arrive souvent que la passion défunte se noie dans l'alcool. Car le manque d'amour ne pousse pas à la tempérance, bien au contraire. Qu'il ne soit pas ou qu'il ne soit plus aimé, certains sombrent dans l'ivrognerie. Ce qui différencie l'amateur de vin heureux en amour et l'amateur malheureux, c'est que celui-ci N'ayant plus à faire partager son plaisir, boit médiocre. Il s'en fout. Pourvu qu'il ait assez d'alcool pour s'étourdir, pour oublier. Il est notoire que le veuf, l'inconsolé, le transi largué, l'amoureux éconduit, victime du verre solitaire, n'encourage ni l'excellence des vins, ni leur juste et attentive consommation. Moralité, un homme apprécie d'autant plus les bons vins qu'il est amoureux. Une femme apprécie d'autant plus les bons vins qu'elle est amoureuse. L'amour pousse à la recherche de l'excellence et du plaisir dans la modération. Car aimer les vins, c'est aimer l'amour, et aimer l'amour, c'est aimer les vins.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, mesdames et messieurs, il ne vous faudra que 5 à 10 secondes pour deviner que je suis du Midi. Je suis né sur ces terres qui, sous le règne du vent et l'empire du soleil, n'en finissent pas de faire chanter la vigne depuis des générations et des générations, avec des produits porteurs d'images fortes, images du vigneron authentique, image de la beauté des terroirs, image de l'environnement préservé et image de la qualité et de la naturalité des produits. Cette viticulture, mesdames et messieurs, dans nos régions, a façonné le cœur et l'esprit des habitants. Elle a même façonné les paysages. C'est donc bien de civilisation qu'il s'agit, même si parler de civilisation du vin, c'est commettre un pléonasme, puisque le vin, c'est la civilisation, depuis les Phéniciens, les Grecs et les Romains. Selon Colette, seule dans le règne végétal, la vigne nous rend intelligible ce qu'est la véritable saveur de la terre. Selon Claudel, la table, entre les convives, établit le même niveau, égalité. Et la coupe de vin qui y circule nous emplit envers nos voisins de compréhension et d'indulgence, tolérance. Alors, puissions-nous tous dans le monde politique boire du vin, nous y gagnerions, je crois, en tolérance. Mesdames et messieurs, je voudrais indiquer que nous sommes en train de travailler au niveau de l'Association nationale des élus du vin, que je copréside avec mon collègue Philippe Martin de la Marne, alors que moi je suis de l'Aude. Nous sommes en train de travailler à une demande officielle auprès du ministre de la Culture portant sur la réalisation d'un inventaire du patrimoine vitivinicole s'inscrivant dans une perspective de valorisation de celui-ci, et notamment un eau touristique. Oui, cet inventaire aura pour mission de valoriser notre patrimoine, mais aussi d'éviter des pertes regrettables et irréparables. Sur un autre sujet, plus important encore, je souhaite vous indiquer qu'avec l'ANEV, Association nationale des élus du vin, je le répète volontairement pour que cela s'imprime dans vos esprits, nous apportons notre plus total soutien à la démarche visant à faire inscrire la tradition française des vins de terroir sur la liste UNESCO représentative du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. D'ailleurs, le vin n'est-il pas mentionné comme partie intégrante du repas gastronomique des Français, lequel est désormais inscrit, vous le savez tous et toutes, sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Je précise également que j'ai par ailleurs déposé au Sénat, c'est vrai, il y a quelques semaines de cela, une proposition de loi visant à affirmer clairement que le vin fait partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique de la France. Mais, mesdames et messieurs, c'est déjà le cas pour le foie gras. Alors pourquoi diable cela ne serait-il pas le cas pour notre vin? C'est pour le foie gras inscrit au Code rural, c'est l'article L 654-27-1 de ce fameux Code rural que je viens de citer. Bref, Mesdames et messieurs, avec la viticulture, et pour reprendre les propos d'un ministre de la Culture, on touche à l'âme du pays. Oui, il faut que la culture du vin n'en déplaise à certains, facteur de bonheur et de cohésion sociale, soit valorisée. Elle ne l'est pas en France. Premier producteur mondial et berceau de la viticulture. Aux États-Unis a été instaurée une sorte de culture du vin. Au Japon, boire du vin, c'est extraordinaire. En Espagne, on a doté le vin d'un statut le distinguant des alcools durs. Chez nous, ce produit naturel, culturel, qui contribue d'éclatante manière au rayonnement de la France, eh bien, il est trop souvent montré du doigt, alors qu'il constitue de surcroît une force de frappe économique non négligeable, puisqu'il représente le premier poste de nos exportations agroalimentaires. En fait, à l'exportation, il représente l'équivalent de 500 TGV ou de 103 Airbus. À l'échelle internationale, le vin français bénéficie d'une belle image de marque et d'un fort pouvoir attractif. Le vin, c'est la France. Partout dans le monde, on développe la culture du vin. Et la France, grand pays producteur, malmène son héritage. Oui, mesdames et messieurs, il existe un lobby, mais un lobby anti-vin. Je le sais, je le rencontre souvent au Sénat ou au Parlement. L'amalgame vin-alcool dur, qui date de la loi Barzac, 1987. L'amalgame vin-alcool dur a tué le statut spécial du vin, produit du terroir, entrant dans l'alimentation traditionnelle du consommateur. Et sous les coups de boutoir de certaines politiques relayées par des associations très bien subventionné par l'État, d'ailleurs. Le vin est devenu, pour une majorité, une simple boisson alcoolisée, au même titre que le whisky, la vodka, la bière, responsable de tous les maux, évidemment, des accidents de la route, des violences conjugales, des cancers, responsable aussi de l'alcoolisme des jeunes, alors que ces mêmes jeunes ne boivent pas de vin. Comment dès lors s'étonner que la consommation de vin en France, depuis 30 ans, ne cesse de baisser? Oui, mesdames et messieurs, il y a des associations qui sont subventionnées pour taper sur le vin. Pendant que d'autres, comme Vin et Société, avec très très peu de moyens, mettent tout en œuvre pour réhabiliter son image et oser dire que l'on peut aimer le vin. Et c'est tout en votre honneur, madame Tarbi. Comment voulez-vous que les vignerons français n'aient pas le vin triste? Eux qui s'estiment particulièrement mal aimés, nos viticulteurs vont-ils finir par avoir honte de leurs produits? Et les Français vont-ils devenir des buveurs d'eau, des mangeurs de yaourt, alors que nous détenons le record de la consommation de médicaments et autres antidépresseurs? Je crois faire partie de ces parlementaires, mesdames et messieurs, qui assurent une défense du vin modérément et intelligemment consommée. Ce qui, n'en déplaise à certains, est tout à fait compatible avec une politique objective de santé publique. Mieux, 20 ou 30 ans de recherche et de travaux scientifiques démontrent que consommer modérément, mais régulièrement, le vin est bénéfique à la santé. Comble de l'absurde. Alors que tout est fait dans ce pays pour réduire la consommation de vin, l'industrie paramédicale met sur le marché des gélules de resvératrol. Je vous signale le prix, 20 euros la boîte de vin. Ce même resvératrol que l'on trouve dans le vin et dont les effets sont si bénéfiques à la santé, selon les scientifiques et les chercheurs qui se sont penchés sur ce problème-là. Mesdames et messieurs, mon champ d'action a toujours été clair. Il s'agit de contribuer à dédiaboliser cette boisson tout en responsabilisant nos concitoyens. Oui, Depuis 20 ans, je dis qu'il faut distinguer le vin des alcools durs en matière de politique, de santé ou de communication. Et j'ai déposé à cet effet plusieurs propositions de loi. Le vin a besoin de se faire connaître. Et le consommateur a besoin d'être informé sur la diversité des productions, la diversité des cépages, des terroirs, des climats, des méthodes d'élaboration. Le vin a besoin d'être précisé sur ses caractéristiques organoleptiques, les arômes, les saveurs, les couleurs. Or, porter l'information sur ces caractéristiques n'est pas inciter à consommer plus, comme cela m'est reproché. Et oui, je le dis et je le répète volontiers, lors de l'examen de la loi Evin au Sénat, j'ai mis en minorité le ministre d'un gouvernement que je soutenais par ailleurs, en faisant adopter un amendement en ce sens. Et cet amendement, malheureusement, n'a eu une durée de vie que d'une dizaine d'heures, puisque sur le coup de 2 heures du matin, par une nuit sans lune, bien, une majorité d'absents a rejeté cet amendement. Ça arrive, c'est ce que l'on appelle le règlement du Sénat. Il arrive parfois que les absents votent. C'est comme cela. Mais je voudrais insister sur un autre aspect des choses. Qu'a donc fait l'Espagne il y a quelques années, si ce n'est d'aller dans le même sens en distinguant le vin des alcools durs dans l'accès à la publicité? C'est exactement ce que je proposais, moi, en 1990 et 1991. L'Espagne a reconnu un statut particulier du vin, dès lors que pour les Espagnols, cette boisson fait partie de l'alimentation traditionnelle du consommateur. J'ai d'ailleurs déposé, voici plusieurs années, une proposition de loi visant à autoriser le parrainage en faveur du vin. Et j'attends toujours qu'elle soit mise à l'ordre du jour. Cela dit, nous avons pu constater que la loi Evin présentait de surcroît quelques imprécisions sur lesquelles s'appuyaient des associations de lutte contre l'alcoolisme pour attaquer certaines communications sur le vin. Les contentieux étaient nombreux. Il fallut donc préciser et assouplir la loi. Et depuis cette modification, un nouveau champ de communication est ouvert sur les caractéristiques du produit, les arômes, le goût, la couleur. Exemple, touches florales de violette, parfums d'épices et saveurs de fruits, cannelle, cerise, sont autorisées. De même que les références aux facteurs humains et naturels devraient être possibles dans la mesure où les personnages représentés sur une affiche, par exemple, sont directement liés à l'élaboration du produit. Un vendangeur, par exemple, un maître de chai, une vendangeuse, mais en aucun cas à un acte lié à la consommation. Aucun lien ne devra donc être fait avec la réussite, avec la séduction ou avec l'érotisme. En aucun cas, mesdames et messieurs, Claudia Schiffer ne pourra figurer sur une publicité parce qu'elle n'a rien à voir avec la profession de viticultrice. Bref, on peut décrire le produit, mais on ne peut pas valoriser ses effets. On peut donc informer, mais pas inciter à consommer. En fait, ce que l'on m'a refusé au moment de l'examen de la loi Evin a été accepté en partie 14 ans plus tard par le Parlement. Ainsi va la vie. Mais si le contenu de la publicité a pu être précisé et assoupli, Madame Tarbi vous l'a dit, par contre, la liste des supports autorisés n'a pas été élargie, à l'exception des affiches et enseignes qui ont été autorisées en 1994. Et puis, publicité sur Internet, mais je vais y revenir. Un autre point de préoccupation que j'ai également tenté de régler par voie d'amendement, il s'agit des campagnes de prévention de l'alcoolisme, au demeurant fort légitimes, mais qui avaient une fâcheuse tendance à se transformer systématiquement en campagne anti-vin. Chacun a en mémoire le verre de vin sur les écrans de télévision, associé à un accident de la route. Chacun a en mémoire le sablier par lequel s'écoulait un liquide rouge ressemblant à du vin, mais ressemblant aussi à du sang. Face à de telles campagnes, ciblant uniquement le vin, j'ai fait adopter un amendement lors de l'examen de la loi Evin, qui figure aujourd'hui d'ailleurs dans le Code de la santé et qui stipule que, dans le cadre des campagnes de prévention de l'alcoolisme, il ne devra pas être fait de discrimination entre les différentes boissons. Cette disposition est-elle respectée? C'est une question que je vous pose, mesdames et messieurs. À vous de me le dire. En tout cas, c'est un point sur lequel nous sommes très vigilants lorsque nous sommes saisis de projets de campagne de prévention de l'alcoolisme au sein du Conseil de modération et de prévention dans lequel, avec Madame Tarby, nous siégeons. Plus récemment encore, c'est par des mesures législatives que nous avons autorisé la publicité sur Internet. À certaines conditions, évidemment, d'ailleurs, afin de préserver les enfants et les adolescents. Était-il normal, mesdames et messieurs, que les Espagnols, les Italiens, les Australiens, les Sud-Africains, les Californiens, les Chiliens aient accès à la publicité sur Internet en faveur de leur vin, mais pas les viticulteurs français? Comme vous pouvez le constater, nous essayons de promouvoir un droit que je qualifierais de raisonnable. Pourquoi pas d'ailleurs des chaînes de télévision spécialisées sur la vigne et le vin? Nous avons déposé une proposition de loi en ce sens. Et le CSA, c'est une bonne nouvelle, a donné récemment son feu vert à un projet de chaîne thématique sur la vigne et le vin. Les choses avancent. La pente est rude. La route n'est pas forcément droite, mais nous essayons d'avancer. Et je suis de plus en plus persuadé qu'il faut poursuivre les efforts entrepris visant à éduquer les gens à la consommation de vin. Car à défaut de connaître le vin, les jeunes se tournent volontiers vers d'autres boissons alcooliques consommées par ailleurs avec excès. Il faut pouvoir montrer qu'une consommation modérée de vin peut apporter autant de convivialité, plus de plaisir gustatif, tout en présentant moins de risques. Il y a même mieux, car comment interpréter autrement le fait que l'administration américaine des denrées alimentaires et médicaments recommande de boire du vin dans le cadre de la prévention des maladies thrombotiques ou cérébrovasculaires. Encore une fois, une consommation modérée et régulière du vin est bénéfique à la santé. Et pourtant, mesdames et messieurs, combien de fois ai-je entendu diaboliser le vin sur les bancs du Parlement? Combien de fois le vin a-t-il été pris pour cible? Visiblement, il semble que l'on fasse une fixation sur ce produit. Par contre, on ne semble pas s'émouvoir des pratiques de certains grands alcooliers qui, le samedi soir, vont à la rencontre des jeunes qui organisent des manifestations festives pour leur offrir, c'est-à-dire gratuitement, des échantillons d'alcool dur afin de les initier à ces mêmes alcools durs. Là, visiblement, cela ne semble pas émouvoir mes collègues parlementaires, ainsi que nos ministres. Je me souviens aussi en 2004 de cet amendement qu'il me fallut combattre et qui visait à faire figurer sur les étiquettes des bouteilles le même message sanitaire que l'on peut lire sur les paquets de cigarettes. Imaginez la chose, sur une bouteille de vin, sur l'étiquette, un message en caractère gras, du style « le vin tue » ou « en consommer peut conduire à la mort ». L'effet aurait été garanti, mesdames et messieurs. Après ça, vous pouvez toujours relancer la consommation du vin en France ou relancer vos exportations. Nous avons écarté cet amendement, scélérat, mais non sans peine. Comme vous pouvez le constater, les excès sont toujours mauvais, surtout lorsqu'ils sont des excès législatifs. Notez à toutes fins utiles que les régions viticoles sont celles où la proportion de maladies alcooliques est la plus faible. Cela s'explique certainement par cette éducation à une consommation responsable et modérée. Le vin relève d'une culture et comme toute culture, cela nécessite un apprentissage. Sur un autre plan, mesdames et messieurs, j'ai également déposé une proposition de loi visant en matière d'information sur le vin à faire la distinction entre publicité et articles de presse rédactionnels. Simplement, la confusion qui a été faite par certains tribunaux entre publicité et articles de presse rédactionnels est extrêmement périlleuse au regard de la liberté d'expression. Tout article qui n'aborderait pas une boisson comme le vin sous l'angle de la dénonciation pudibonde encourrait le risque de censure. En bref, mesdames et messieurs, beaucoup d'observateurs étrangers reste perplexe. La France est le berceau de la viticulture et c'est aussi le pays où la législation est la plus sévère. Or, le souci réside bien dans l'abus et pas dans la consommation en tant que telle. Plusieurs pays européens ont assoupli leur législation, la Finlande, le Danemark, l'Espagne, l'Autriche, dans le but de lutter contre les abus et d'éduquer les consommateurs. Et il n'y a que la France pour dicter ce qu'il faut faire. Il serait temps que l'on retrouve une vision juste et équilibrée vis-à-vis du vin, comme ont su le faire les Espagnols ou les Portugais. Pour l'heure, la communication sur le vin est coercitive. Elle n'informe pas, elle culpabilise. Les Français n'ont-ils pas le droit d'être considérés comme des adultes qui disposeraient d'informations équilibrées? Regardez ce qui se passe au Québec, où tout est axé sur la modération et sur une attitude responsable, avec des campagnes d'information faisant appel à l'intelligence, à l'éducation, à la modération. Résultat, au Québec, les efforts d'éducation ont transformé les comportements concernant l'alcoolisme. Le Québec figure parmi les 10 provinces du Canada dans le bas du tableau par rapport aux maladies liées à l'alcoolisme. Pour la France, aujourd'hui, nous sommes en droit de nous poser des questions. Voulons-nous des jeunes qui soient seulement capables de ne réagir qu'à l'interdit ou aux barrières que l'on dispose? Ou au contraire, voulons-nous des jeunes libres, éduqués et responsables? Cela dit, il est vrai, et j'en termine, Monsieur le Président, qu'il est plus facile d'interdire que d'éduquer à la tempérance. C'est plus facile et ça demande moins de moyens. C'est plus facile et ça donne bonne conscience, même si l'on sait que l'efficacité est insignifiante. Oui, il est plus facile de pousser les petits consommateurs à l'abstinence totale que d'éduquer les gros buveurs à une consommation raisonnée. Quelle a été, mesdames et messieurs, l'efficacité d'une politique qui a simplement consisté à poser des interdits? Mesdames et messieurs, poser partout des interdits n'entraîne-t-il pas la déresponsabilisation? Comme vous pouvez le constater, il reste encore du chemin à accomplir pour bénéficier d'un droit raisonnable. J'en termine là-dessus. Un certain Montaigne disait « Faites-leur de bon vin, ils vous feront de bonnes lois. » Croyez dans ma sincérité si je vous dis que c'est tout le sens de mon action. Merci.
Les actes de ce colloque seront publiés ultérieurement et Canal Académie ne manquera pas de vous tenir informé de cette publication. Vous pouvez aussi écouter d'autres émissions sur le vin avec Jean-Robert Pitt, notamment 4 émissions incontournables. Le vin au cœur de la condition humaine, c'est d'ailleurs l'introduction de ce colloque. Sa conférence sur le vin à l'exposition universelle de Shanghai, sa présentation d'un maître en géographie auquel ce colloque rendait hommage, Roger Dion, qui a publié il y a 50 ans son « Histoire de la vigne et du vin en France », et la séance que Jean-Robert Pitt a donnée devant les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques, intitulée « Le désir du vin à la conquête du monde ».